sábano. Un barata con un Ortega. Ah, gosto ju. Un barata con zumo con mojo cuyo.
Alors bienvenue dans ce Travelling Radio avec Sébastien Gelli qui est à la perche, Julien Kirsch et son chien Duke en porteur du son et moi-même Mathéo sous le micro. S'ouvre ce nouveau Cause Toujours en mouvement et avec nos invités que je vais vous présenter progressivement pendant notre parcours. Et quelques explications d'abord. Depuis quelques mois, la friche se refait une beauté en prévision de l'année 2013 et pas seulement, des suivantes. Le chantier n'est pas anodin et les équipes chantiers cohabitent donc depuis quelques mois avec la programmation des spectacles, la vie des ateliers d'artistes et la vie des bureaux, l'activité culturelle, éducative, artistique, maintenue sans arrêt. Une fois par mois, pour rendre compte de cette simultanéité et proposer au public entrée, c'est le chantier, avec des visites de chantier, des propositions du théâtre des cuisines, des cartes blanches à des artistes, comme celle de ce soir aux alentours de, en fait, pas 20h, ça a déjà commencé, la proposition du groupe Dune, artiste résident de la Friche, on en parlera dans quelques instants avec eux. Pendant ces entrées, c'est le chantier, c'est aussi l'occasion pour nos causes toujours d'aborder des sujets qui parlent tout aussi bien, on l'espère en tout cas, à ceux qui habitent ou fréquentent la Friche, qu'à ceux qui aiment encore poser des questions et des réponses d'aujourd'hui, aujourd'hui avec un grand A, sur l'art, les manières de faire ensemble, les façons de vivre sur des territoires, etc., etc. Il y a 2 mois environ, nous abordions une première thématique liée au son sous l'intitulé « Je t'entends trop », l'occasion de partager des points de vue très variés sur nos rapports aux environnements sonores, selon les personnes, les contextes, les lieux, les humeurs, les empêchements, les possibles. L'occasion aussi d'écouter ou de tenter d'écouter les espaces que nous avions parcourus. Village de ville à l'entrée de la Friche, skate park, un bout du chantier, de haut en bas, et le restaurant. Et aujourd'hui, avec un petit tas, pour ce cause toujours, nous passons, sans quitter le son, à la thématique des espaces. Nous l'avons nommé collectivement caprice des lieux, approche ouverte, propice à tirer des fils en tout genre, via des propos et des positions d'artistes, architectes, ingénieurs, habitants et chercheurs. Nous serons pour parler avec, entre autres, le groupe Dune, Madeleine Chiche et Bernard Misraki, Clotilde Bérou, architecte de l'agence ARM, architecte du projet, Thierry Sissionne, urbaniste, et Pierre Vergès, chercheur, sociologue, qui viendra au moment du vin chaud, à la fin, nous faire part de ce que lui a évoqué cette conversation. Et puis, pour ceux qui ne nous voient pas, c'est-à-dire les auditeurs et les internautes, un petit mot sur le dispositif radio. On est en 2 groupes, émetteur, récepteur, qui marche. Là, on est à l'arrêt, mais on va remarcher, à quelques mètres de distance. Il est 18h30 passé, la nuit est tombée, il y a des éclairages qui ont été installés par les équipes. On est au bord du chantier et la température à peu près raisonnable. Côté parcours, on est parti des grandes tables de la Friche, on va faire une petite traversée par le chantier, monter sur le toit terrasse, retour aux grandes tables pour finir de causer en buvant le vin chaud. C'est parti. Bernard, Madeleine, on l'aborde là.
Bah oui, on traverse. Oui. On passe de l'autre côté.
De l'autre côté de quoi d'ailleurs, hein? Parce que c'est...
Bah, on rentre dans une zone en turbulence.
Ah, on met le casque. On met le casque.
Vous avez connu la Friche à sa création, vous y travaillez depuis sa création. Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie d'y rester encore aujourd'hui?
C'est marrant parce que c'est une chose à laquelle je pense souvent ces temps-ci. C'est de me demander qu'est-ce qui fait que je suis encore autant attachée à ce lieu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment appris la Friche. J'avais appris la Friche en dansant. Et que c'était peut-être ça qui avait constitué pour moi un j'ai mon casque qui tombe. J'avais à partir de là constitué un peu ma mémoire sensible, peut-être ma mémoire corporelle, que ça avait construit un peu mes émotions, des lieux, de l'espace. Ça m'avait aidé en tout cas à enrichir énormément ces questions-là, ces notions-là d'espace et de temps. Que moi, en tant que. Puisqu'à l'époque, quand on est arrivé à la Friche, on était danseur et chorégraphe. Et donc à l'époque, on expérimentait, nous, dans le studio. Et qui était, pour nous des espèces d'exercices, quoi. L'espace et le temps, c'était des exercices pour nous. Et la Friche, ça a été un moment très fort et qui continue, parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir en mémoire, quoi, de l'avoir un peu en moi, quoi. Voilà, et je me dis que c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui que j'y suis autant attachée.
Il y a aussi le fait que peut-être que. Dans une ville, il n'y a pas tellement d'espace hors normes, et que les espaces hors normes, ils influent aussi sur nos comportements et notre façon de penser notre rapport à l'espace, notre rapport à la ville. Et que tant qu'il y a des lieux comme ça, un peu hors normes, qui existent, c'est important de les habiter pour essayer de penser un peu autrement ou de sortir des cadres de la pensée ordinaire.
Clotilde Béroux, donc architecte pour l'agence ARM du projet. On est à quel endroit et qu'est-ce que ça t'évoque le matin quand tu arrives ici et le soir quand tu en repars ?
On est dans ce qu'on appelle la rue intérieure. Donc le principe de ce projet, c'était de considérer en fait l'îlot de la Friche Belle de Mai comme un quartier. Pour le considérer comme un quartier, il fallait le recouper et permettre d'y faire entrer la lumière et de circuler. Donc les rues intérieures sont à l'image d'une rue. On circule dans une trame de bâtiment sur lequel nous n'avons plus de toit pour amener de la lumière et faire pénétrer cette lumière dans ce bâtiment qui fait 125 mètres de long par 75 mètres de large et qui jusqu'à présent était un grand trou noir.
D'ailleurs, c'est vrai, c'est rigolo ce que dit là Clotilde par rapport à la question de la lumière. C'est que nous, quand on a commencé ici, on traversait tous ces espaces parce que, donc nous, je sais pas, on était installés, on fabriquait des spectacles, donc on s'installait pendant un mois dans les lieux, notamment, on en a fait plusieurs ici, la cartonnerie, qui n'était pas du tout comme ça à l'époque, hein, y avait encore les trains qui rentraient, il y avait un quai, c'était très très différent. Et donc on traversait ces lieux totalement sombres, il y avait la poussière encore, il y avait encore l'odeur du tabac et tout ça, ça nous imprégnait quand même très fortement. Et ces espaces vides et avec ces poteaux, ces forêts de poteaux et sans lumière, c'était très très impressionnant en fait. Et c'est vrai que quand les travaux ont commencé et qu'on a vu la lumière pénétrer là-dedans, ça a été pour moi une émotion très forte.
Il y a le plaisir d'habiter des lieux comme ça. En norme, on va laisser tomber parce que c'est pas juste vaste. Et il y a le plaisir d'inviter les gens à venir dans des espaces immenses comme ça, où on a peu l'habitude de convier le public. Je crois que là, il y a aussi l'idée que finalement, ces lieux proposent un rapport à l'espace, et au temps forcément aussi, un rapport à l'espace totalement différent que tous les autres lieux qui peuvent exister dans une ville, et que c'est important justement pour faire évoluer la manière de regarder les choses. J'ai envie de dire, la vie est possible hors norme, la Friche l'a montré, et que on peut être heureux en étant. L'idée, c'est pas finalement il faut absolument être hors norme, mais simplement quand les cases sont un peu étroites, il ne faut pas avoir peur d'élargir pour juste prendre l'espace, quoi, parce que vivre, c'est prendre l'espace. Hein, c'est ça.
Clotilde, tu as eu l'impression que, en tant qu'architecte, vous aviez pris le temps nécessaire pour partager les enjeux de. Alors, on parle des transformations là, de la Friche La Belle de Mai, mais ça pourrait être d'autres espaces et d'autres lieux, de partager les enjeux de transformation avec ceux qui les habitent au quotidien, les artistes, les équipes artistiques, les habitants, les publics.
Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que l'enjeu de ce projet, en fait, le projet est issu du schéma directeur. Donc le schéma directeur, c'était un peu une expression des dessins des uns et des autres par le dessin. Et ces envies-là, c'était essentiellement aussi d'ouvrir cet espace et de lui amener une autre configuration géographique de manière à se faire qu'on s'y repère, puisque la friche, c'est quand même un conglomérat de bâtiments, et on passait de l'un à l'autre sans jamais, et en se perdant, puisque la plupart des gens se perdent à la friche et ont cette image-là. Donc là, le premier enjeu, c'était effectivement d'ouvrir des vues. Là, on découvre au bout de la rue intérieure que l'on voit la ville de toute la face nord de Marseille, dans un cadre. Là où ce projet est extrêmement intéressant, c'est que justement il y a des résidents qui ont des envies, des désirs et des rêves, et c'est ça qui fait la richesse d'un projet, c'est quand ils viennent s'y installer, poser leurs valises et parfois y intervenir, ce qui a donné notamment grâce au théâtre des cuisines et à la manifestation entre Tresser le chantier la très jolie installation du collectif LFKS. C'était des petits fils tendus dans les failles et qui étaient en antagonie totale avec la phase de démolition et qui était extrêmement jolie.
Tu as employé le terme repère. On sait aussi que du côté des financeurs, mais pas que, c'est important que ça soit repérable. On va passer à droite. Je vais poser la question en suspens et puis on y répondra peut-être quand on arrivera là-haut. On va monter l'escalier. Par rapport à cette question du repère, on sait qu'il y a des artistes, et puis on demandera notamment au groupe Dune, où l'idée de la friche est aussi un endroit où on peut se perdre. Voilà. Et que c'est bien joli les repères, mais que les repères sont parfois en opposition avec la notion d'inconnu. Voilà. Je la laisse en suspens. La suspens. Et...
deux personnes par volée, pas plus.
Terrasse. Clotilde, par rapport à ce rapport repère, inconnu, déstabilisation, stabilisation.
Je crois qu'on peut se repérer tout en se perdant, puisque on est rentré au R+2, alors qu'on a l'impression d'être au rez-de-chaussée, puisque c'est le rez-de-chaussée du bâtiment d'à côté. Et là, on arrive, en fait, on monte un étage et on est devant Marseille tout entier. Donc se repérer ne veut pas dire ne pas se perdre et être surpris, en fait.
Madeleine ou Bernard ?
Ouais, sur la question des repères, bon, bah, par rapport au toit et même par rapport aux travaux. Si tu veux, c'est vrai que quand on a vu les dessins, les plans, Ça nous effrayait pas, mais oui, ça faisait, c'était un peu étrange pour nous, hein, de voir toutes ces tous ces cubes qui allaient être installés les uns à côté des autres. Et puis bon, évidemment, le toit, nous on l'a exploré dans une configuration qui est très différente de celle d'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, on a un peu souffert de la...
Comment vous l'aviez exploré ?
Disons que...
Nous, on va pouvoir un peu avancer.
C'est vrai que là, c'est marrant parce que je ne suis pas venue la nuit depuis les travaux. Et je trouve qu'il a... Bon, c'est le chantier, c'est un chantier, hein, donc... C'est difficile. Moi, je suis très pragmatique par rapport à ces questions-là. Tant que j'ai pas vu, je suis persuadée que je connais pas, que j'ai pas. J'attends de voir la chose finie, et puis je pense que j'aurai une sensation à ce moment-là réelle du lieu. Mais là, en la découvrant la nuit dans cette nouvelle configuration, Voilà, je la trouve toujours mystérieuse, incroyable, étonnante, c'est quoi, en fait, émouvante.
En fait, c'est pas la terrasse en elle-même, c'est sa situation qui fait qu'elle est exceptionnelle malgré les transformations. On est un petit peu suspendu. Elle est quand même très vaste, mais elle est relativement délimitée. Donc on se sent à l'intérieur de quelque chose, on se sent sur une terrasse en fait. Donc on n'est pas en danger ici, même s'il commence à y avoir des trous un peu partout, on n'est pas en danger. Et on peut prendre le temps de regarder la ville, de se projeter dans cet espace qu'on habite tous les jours et de repenser un peu son propre, le rapport qu'on entretient avec la ville qu'on habite. Mais cet espace-là, il a finalement les mêmes qualités que la ville qu'on regarde, c'est-à-dire c'est un espace à explorer, c'est un espace qui est suffisamment vaste pour qu'on s'y perde un peu, toute proportion gardée. C'est un espace qui n'est pas encore tout à fait organisé, et on peut pas dire que Marseille soit une ville parfaitement organisée. Donc comment la terrasse, finalement, renvoie à travers ce qu'elle est une image de la ville, et comment sur cette terrasse on peut faire une expérience de la ville. C'est ça qui nous intéresse sur cette terrasse.
Je peux revenir à l'histoire des repères, parce que en fait, je disais simplement que quand on a vu les plans, c'était un peu effrayant, et puis quand les travaux ont commencé, moi j'ai trouvé que ça donnait une formidable énergie, c'est-à-dire que à la fois, j'avais vraiment. Bon, on est toujours dans ce qu'on perd et ce qu'on gagne. Il y a toujours, on est toujours souvent face à ce dilemme-là. Et moi, j'ai été très 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 heureuse de voir les choses se transformer, de voir, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec les plans et avec ce qui avait été dessiné. Mais en même temps, je me dis que ça va aussi transformer nos manières de circuler dans la friche, ça va transformer sans doute les relations entre les gens, ça va changer beaucoup de choses. Et donc, je crois que par rapport à cette question des repères, on va avoir aussi un temps où il va falloir se rechercher la façon dont on va essayer d'exister ensemble sur ce site.
On marche un peu.
Cette terrasse fait 10 000 m². Avant, c'était du gravillon. Ouais. Et là, ça va être une. Donc, elle est entrecoupée des failles qui amènent la lumière à l'intérieur du bâtiment, qui permettent la réhabilitation et l'occupation, la mise en place de ces locaux.
Ça va être quoi la fonction ou les fonctions, si on peut parler en ces termes, de ce toit-terrasse?
La terrasse est faite de manière à permettre toutes les fonctions possibles. C'était la grande envie des résidents de la friche, c'était de pouvoir se l'approprier, y faire des manifestations, y faire des surprises. Donc on vient juste remettre un revêtement, on a juste fait ces failles pour amener la lumière à l'intérieur. Et donc le point important de la terrasse, ça va être le belvédère, donc il y a 2 mètres au-dessus, qui est sur le long de la tour, qui donnera accès au panorama.
Non, ce ne sera pas le point important, parce que tous les points sur le toit seront importants.
Le panorama, c'est ce lieu dédié aux arts contemporains.
Le panorama et le nouveau bâtiment qui va être la jonction entre de la tour. Ça va être un bâtiment d'exposition grande hauteur, du coup on va avoir 9 mètres sous plafond, ce qui n'existe pas actuellement à Marseille. Et donc on joue sur à la fois une façade, donc une visibilité depuis la voie ferrée d'un côté, et on a toute une baie vitrée qui va s'ouvrir donc côté terrasse sur la mer, puisque là on l'aperçoit, et comme on sera 2 ou 3 mètres au-dessus, on la verra encore mieux, et surtout la baie de Marseille.
Pour l'instant on fait partie des privilégiés, c'est-à-dire à pouvoir y poser les pieds et y marcher. Le public, ou le tout public comme on dit, il pourra y accéder quand? Fin 1er janvier 2013.
Voilà.
En fait, c'est pas vraiment. C'est un lieu qui a toutes les qualités pour être un lieu public, mais c'est pas un lieu public au sens où c'est pas un lieu qui sera ouvert 24 heures sur 24. Et c'est aussi intéressant peut-être, parce que justement, du coup, quand il vient, il y a quelque chose de particulier à appréhender. J'avais envie de revenir en fait sur le chantier, parce que le chantier, finalement, c'est un moment où on remet de l'ordre dans l'espace. Et c'est une question un peu particulière, mais surtout, on a la tentation, finalement, ce qui faisait la friche, finalement, c'était avant tout des espaces, normés ou dénormés, peu importe, mais qui n'avaient pas de fonction particulière. Et finalement, les habitants de la friche inventaient ces fonctions, c'est un bien grand mot, inventaient, mais en tout cas, improvisaient les fonctions qui étaient pratiques à l'instant où ils pratiquaient l'espace. Et que dans la manière dans la façon de réorganiser l'espace, il y a aussi la tentation finalement d'attribuer des fonctions à chacun des lieux de l'espace. Et ça, finalement, c'est un peu un risque de perte. Mais comme disait Madeleine, on perd et on gagne tout le temps. Si on regarde le passé, on perd. Si on regarde l'avenir, on a tout à gagner. Mais il y a quand même un risque de ne pas se retrouver dans un lieu finalement. Normé ou pas normé, bon, c'est pas le problème, mais où tout est dessiné, et finalement, chaque fois qu'on attribue des fonctions à un espace, ben finalement, on réduit la liberté d'usage. Et qu'il y a peut-être une réflexion à avoir, et moi j'interroge beaucoup les architectes, mais ils sont pas. Les architectes, ils répondent aux commandes qu'on leur fait, mais je trouve qu'il y a une question à réfléchir là-dessus, parce que je trouve que c'est dommage. Finalement, de réfléchir, de penser pour les gens l'usage qu'ils doivent faire de leur. Même si ici, ça ne se pose pas tout à fait, parce que y a des acteurs qui ont besoin d'un théâtre, donc on leur fait un théâtre. Mais au-delà de ça, on perd d'une certaine façon la possibilité d'explorer avec le public des espaces différents que ceux qu'on trouve partout ailleurs. Voilà. Et ça, je trouve, c'est une qualité de la friche. On va voir comment on la préserve.
Cette qualité sera préservée.
Clotilde, la parole de l'architecte.
Ah, mais les architectes, ils sont toujours très sûrs d'eux.
Surtout moi. Cette qualité sera préservée dans le sens où les espaces de circulation sont à l'échelle de la friche et sont à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire que quand on parle d'un couloir entre locaux, on parle d'un couloir qui fait 7 mètres de large sur 4 mètres de haut et qui est entièrement ouvert. Et c'est cette qualité de la friche d'offrir des espaces qui va faire que ça va complètement pouvoir se réapproprier et que les histoires vont pouvoir continuer à exister sous d'autres formes à inventer. Mais c'est là où ce sera intéressant.
Soyons optimistes. On va accueillir Thierry Sissionne.
Bonjour.
Bonjour. Alors, j'ai d'abord une question d'écolier. C'est quoi un urbaniste ?
Un urbaniste, mais moi je ne suis pas spécialement urbaniste en plus. Un urbaniste, ça recoupe beaucoup de choses. Moi, c'est un terme suisse, que mon métier s'appelle un aménagiste. C'est-à-dire, c'est des gens qui aménagent l'espace urbain. Donc, c'est pas du tout un urbaniste qui peut être réglementaire, qui peut être environnemental, ou qui peut travailler sur des nouveaux quartiers, des formes de ville, etc. Donc, moi, je travaille plutôt sur l'aménagement urbain, sur les espaces publics. Et c'est pour ça, pour en revenir aux usages dont vous parliez tout à l'heure par rapport aux espaces publics. Aujourd'hui, il y a la mode qui veut que chacun ait sa place dans l'espace public, ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre, si chacun a sa place, il faut que chacun ait son usage et la manière de faire ce qu'il a à faire sur l'espace public. Et donc on en arrive dans des absurdités où on partitionne énormément l'espace public. Et c'est vrai qu'un des intérêts de la friche, du toit, non seulement du toit, mais aussi des espaces publics qu'il y a en bas, en contrebas, ou des rues qu'il va y avoir dans le bâtiment, c'est que, justement, on va essayer d'expérimenter la manière d'appréhender d'un espace public sans en définir vraiment les usages au départ. C'est-à-dire, je préfère la cour de récréation où on dessine à la crèche à marelle, et on joue à la marelle, que l'espace public, l'espace de jeu d'enfants, où la marelle est déjà peinte. Et les enfants jouent à la marelle là où on n'a pas la marelle. Donc je pense qu'il faut que l'espace public fonctionne plutôt dans une appropriation des gens et qu'on les laisse un peu faire ce qu'on veut. C'est l'image qu'on prend chez Stoa, l'agence où je travaille. On appelle ça la pâte à pizza, c'est-à-dire l'espace public c'est la pâte à pizza et chacun fait sa garniture. Et on ne va pas imposer la garniture aux gens. Voilà sur l'espace public.
J'avais juste envie. Avant de redescendre, j'avais juste envie de juste, si on peut prendre 5 petites minutes, pour laisser à tout le monde le temps de sans parler, enfin sans dire spécialement, enfin sans faire de commentaires, de laisser un peu tout le monde jouir un peu du lieu. Voilà, bon, je sais que vous êtes pas un peu plus confinés que nous là-bas dans le. Vous n'avez pas trop le droit de vous ébattre, d'arpenter trop, mais voilà, si on pouvait juste prendre un petit peu le temps de regarder un peu autour de soi et juste de s'imprégner un peu du lieu tel qu'il est, là, maintenant. Alors c'est vrai que vous êtes un peu dans la lumière, c'est peut-être un peu dommage, mais voilà, juste si on peut faire ça.
Redescendre. Enfin, certains d'entre nous, comme Madeleine évoquait ceux qui étaient circonscrits, elle parlait du public, du groupe qui nous suit, qui accompagne le porteur de son. Mais en fait, on a un peu transgressé les règles, on a dépassé la petite ligne, pour que tout le monde puisse se balader un peu sur la terrasse. Et là, on va redescendre. On va rejoindre doucement les grandes tables pour boire un vin chaud. Les lumières, donc on fait une boucle comme disent les marcheurs, on On est en train de passer où, là, Clotilde ?
Donc on est dans une rue secondaire, on va dire, entre des futurs locaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est des murs en béton cellulaire qui sont montés toute hauteur sous les systèmes de poutres existantes. Là, une entrée. Donc, ce qu'on a essayé de faire à chaque fois, c'est toujours essayer de garder ce principe d'ouverture et de perspective, même si les locaux, vous voyez bien qu'ils ne sont pas forcément uniformes, pas forcément droits. D'avoir toujours deux fenêtres l'une en face de l'autre, essayer de faciliter un peu les interactions et l'animation de ces rues intérieures. C'est bien pour ça qu'on parle de rues intérieures et non pas de couloirs. Puisque la lumière y rentre très facilement. On arrive au local de Radio Grenouille. Donc là, vous aurez le panorama à terme.
Je vois bien ce que disait encore avec nous Thierry Sissonne tout à l'heure sur la pâte à pizza, mais une fois qu'il y a des murs de partout, une fois qu'il y a des équipements, une fois qu'il y a du matériel, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une pizza qui a été réalisée, comment on fait pour en réaliser d'autres ?
Oui, il y a la vie, hein. C'est-à-dire qu'il y a les gens, non ?
Voilà. C'est ce qui fait la particularité de ce lieu. Et, c'est assez marrant de voir comment les artistes interviennent déjà dans le chantier, qui est un environnement très contraint en termes réglementaires, en termes de sécurité, en termes d'installation. Il y a, tous les mois, là, il y a une installation qui est faite par des artistes, que ce soit des récits, que ce soit différentes pratiques, ils y arrivent sans problème à se réapproprier un endroit, à se refaire une histoire. Et la grandeur de la friche, en termes d'espace, le permettra.
Moi, je trouve qu'on a un préfet, que c'est un privilège extraordinaire de vivre ces moments-là. Et je crois que c'est assez rare en fait de pouvoir à la fois habiter dans un site, le voir se transformer, le voir bouger, et du coup se reposer la question de comment on va se comporter, comment on va réagir les uns à côté des autres, parce que là on va tous changer de voisins, tout ça. Et là, je trouve de ces moments-là, quoi, ces moments-là où les lieux sont totalement en bouleversement, voilà, je trouve que c'est très... Ouais, enfin, c'est vraiment un privilège. Non, je crois pas, parce que si ça durait toujours, on s'en lasserait, mais je crois que je trouve que c'est vraiment important de les vivre, quoi. J'ai l'impression, là, Oui, j'ai beaucoup de plaisir depuis le début du chantier à traverser les lieux comme ils sont. Et c'est marrant parce que le toit, là, tel qu'il est tout à l'heure, là, c'est encore une émotion différente. Et à chaque fois que j'y vais, en fait, j'ai une émotion différente. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait que j'aime ces endroits, quoi. Et j'ai envie de pouvoir continuer à vivre ça. Puis bon, après, je sais pas ce qui va se passer, mais... En tout cas, j'essaie de profiter du présent.
On va regagner les grandes tables. Donc, ça y est, on est en train de sortir du chantier. Thierry Sissonne sur d'autres expériences dont on parlait tout à l'heure. Alors, chaque expérience est a priori singulière, mais là, on entend aussi les habitants. Donc, il y a une charge émotionnelle au bon sens du terme, sur d'autres expériences sur lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce que vous avez comme récolte de témoignages entre ceux qui habitent un lieu, les équipes chantier ?
Donc en fait, quand on a un chantier, tout le monde ne voit que les nuisances qui sont liées au chantier et surtout les transformations de ce qu'il y avait avant. Et nous, on a l'habitude de dire que quand une ville n'est plus en chantier, c'est qu'elle tombe en ruine. Donc le chantier, c'est un bon signe, ça veut dire que la ville continue à évoluer. Et il est vrai que de plus en plus, c'est-à-dire le chantier est le lieu de discussion avec les habitants. Et on essaye de leur expliquer, surtout dans l'espace public, hein, on essaye de leur expliquer ce qu'on leur apporte. Il y a toujours des mauvais coucheurs. C'est pas ces gens-là, que c'est pas les mauvais coucheurs qu'il faut écouter. C'est toutes les autres personnes qui peuvent participer à un chantier. Et on s'aperçoit que le moment du chantier est un lieu de discussion. Et surtout, on s'aperçoit que quand le chantier est fini, les gens ont oublié de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire très très vite, on oublie comment c'était avant. On peut prendre par exemple, si vous connaissez Marseille, prenons le boulevard Longchamp, où il y a eu un gros chantier d'espace public, hein, c'est-à-dire avant, le chantier du tram et le tram. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens se souviennent comment était le boulevard Longchamp avant, mais dans l'espace public, on est dans des lieux comme ça. Alors évidemment, ici, on est plutôt dans un bâtiment, on était plutôt dans un lieu fermé, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est-à-dire moi non plus, c'est la première fois que je viens à ce niveau-là, dans le bâtiment, je ne sais pas si beaucoup de gens voyaient ces choses-là, mais à un moment donné, c'est bien de les faire entrer, et puis c'est bien surtout, un des gros intérêts de ce chantier, c'est qu'il va y avoir des espaces publics nouveaux. C'est-à-dire, en gros, une toiture accessible à tout le monde, à Marseille, comme ça, une toiture comme ça, une grande terrasse avec une vue, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, de temps en temps, on va au panier où on a une vue, de temps en temps, on va sur l'immeuble du Corbu, mais encore que les initiés, que les architectes qui vont sur l'immeuble du Corbu, où on a une vue, et il y a très très peu de lieux où on est sur un bâtiment en hauteur. C'est-à-dire, au niveau de la vue, c'est presque la vue qu'on a de Notre-Dame-de-la-Gare. C'est-à-dire, à un moment donné, on est en hauteur et on domine la ville. Donc je pense que une des expériences intéressantes d'ouverture de ce bâtiment au public, parce que moi je pense que jusqu'à présent il était fermé au public, mais très très fermé, hein. C'est ce qui a fait, c'est pour ça qu'on s'est installé là, parce que c'était un lieu en déshérence, les artistes se sont installés là parce que ça n'intéressait personne, donc ils sont venus s'installer. Aujourd'hui, c'est-à-dire on retourne la pratique du site, c'est-à-dire maintenant on veut que les gens viennent.
Et donc, les gens sont venus quand même. Là, tu exagères un peu de dire que t'es...
Non, mais je pense que par rapport... Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui vient. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une différence entre personne ne vient non, et tout le monde vient.
Je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Mais bon, si tu veux, je trouve qu'il y a eu beaucoup ce discours, tu vois, en disant que le site était fermé, que c'était... Mais évidemment, le site, il faisait peur parce qu'il était... Il était difficile. Il était difficile physiquement, quoi, dans sa configuration, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus.
Ce que je veux dire, c'est qu'il est né, grâce à certaines qualités qui aujourd'hui peuvent en fait sont ses défauts. C'est-à-dire à un moment donné, c'est-à-dire la friche artistique, c'est du squat. C'est-à-dire on voit le système comment ça marche. Et un des gros intérêts, c'est justement qu'il n'était pas très accessible. C'est-à-dire aujourd'hui, on est à 1 km de la gare. C'est-à-dire c'est quand même un atout. Ça. C'est quand même un atout. Alors qu'à l'époque, c'est-à-dire tout le monde. Moi, la Belle de Mai, c'est un peu le triangle des Bermudes, hein, entre les deux autoroutes, entre les voies de chemin de fer. Et il y a très très peu d'accessibilité à la Belle de Mai en général, et encore moins à la friche qui était dans un cul-de-sac de la Belle de Mai. Et donc aujourd'hui, toutes ces qualités, on va dire, de fait qu'ils ne soient pas accessibles, qui ont fait que ce lieu est devenu la friche, à un moment donné, il faut les inverser et faire en sorte que ce lieu reste la friche. C'est tout le débat qu'on peut avoir là-dessus.
L'ouverture, elle est à double sens, puisque quand on fait un projet architectural, on part sur un bâtiment neuf où on emprisonne la lumière. Travailler sur un projet comme ça, c'était d'abord ouvrir et faire entrer la lumière. Et du coup, ce matériau, la lumière, était le matériau principal pour faire et mettre en œuvre ce projet. Donc c'était vraiment écrire avec la lumière.
En fait, nous, on a constaté, parce qu'en fait, on a fait des images du site et on est resté dans la rue... avec nos caméras, et beaucoup de gens sont venus nous parler. On a constaté qu'en fait, toutes les ouvertures qui étaient faites, pour les gens, c'était déjà pénétré dans le lieu. Et donc déjà ça, le fait simplement de pouvoir voir à l'intérieur, ça changeait la perception que les gens du quartier avaient de ce lieu. Et pour moi, ce sont des événements très très importants pour le lieu aujourd'hui, quoi.
Moi, j'ai une autre question, mais... Je reviens un peu en arrière sur la question de l'histoire que la friche est ouverte ou la friche est fermée. Quand une porte est ouverte, c'est une porte. Alors il faut la franchir. Qu'est-ce qui fait qu'on la franchit ou pas? Pour moi, c'est un mystère absolu. Et on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte que les gens la franchissent. Et que la friche a souffert, peut-être, d'avoir juste une porte ouverte et de ne pas faire en sorte que... de ne pas se préoccuper de pourquoi les gens... franchirait la porte ou pas. Je comprends pas. Il y a pas d'obstacle a priori. Et pourtant, il y a quelque chose qui fait que les gens, du quartier en tout cas, ne rentraient pas, alors qu'aujourd'hui, ils sont excités par les travaux. Et ne serait-ce que l'existence des travaux va faire peut-être qu'ils auront moins de problèmes, moins d'appréhension à franchir cette porte. Il y aura toujours une porte plus ou moins. Il y aura toujours un seuil d'entrée dans la friche. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des travaux d'un coup, parce qu'il y a l'idée que c'est nouveau, que c'est neuf, il y a quelque chose de réhabilité. Alors là, on va peut-être rentrer plus facilement. Mais pour moi, c'est un mystère. Et c'est un mystère qui parle aussi de la capacité de chacun, justement, à franchir les portes.
On va se rapprocher du buffet. Puis on se rapproche de la fin. Donc les verres vont teinter, c'est comme ça qu'on dit. Et on va accueillir notre dernier invité qui a pris beaucoup de notes. Vous nous entendez là-bas ?
On a vu l'arsène, il faut avancer.
Ah, il faut qu'on avance. On va se déplacer, on va aller vers là-bas, Sébastien. On a un peu de l'arsène entre le micro et le porteur de son. Donc merci d'être venu. Vous êtes, est-ce que je dis vous êtes ou est-ce que je dis vous avez été chercheur au CNRS, sociologue ? Avant que vous nous disiez ce que cette conversation ou cette balade vous a évoqué, quels ont été, pour qu'on arrive à situer vos champs de recherche, quels ont été, en quelques mots, vos champs de recherche pendant toutes vos années d'activité ?
Alors, mes champs de recherche ont été d'abord des recherches sur ce qu'on a appelé les classes moyennes à l'époque. Bon, parce que dans les années 70, 80, c'était un thème un peu à la mode, dans la mesure où brutalement apparaissaient dans la cité des couches sociales qui jusque-là n'avaient pas eu beaucoup le droit à la parole ou le droit à avoir, disons, une importance. Hein, c'est jusque-là, ce qu'on appelait classe moyenne, c'était les agriculteurs, les paysans, les commerçants. Et puis, brutalement, est apparue cette idée de couche moyenne salariée et qui a généré, je dirais, la culture de ces années 70, 80, 80, jusqu'en 90. Bon, après, elles ont un peu disparu, emportées par les évolutions de la société. Tout au moins, leur importance a disparu, même si elles continuent d'exister, bien évidemment. Voilà. Alors bon, ça, c'était un des thèmes importants. Et puis après, j'étais amené à pas mal travailler sur l'espace méditerranéen et d'essayer de comprendre la dynamique sociale au plus près des habitants de cette société, de ces sociétés qui tournent autour de la Méditerranée, nord et sud, et là de mettre en évidence là aussi l'importance des rencontres, l'importance de lieux qui peuvent être des lieux un peu mythiques, mais qui sont des lieux très forts, tels que en Turquie, Istanbul, qui est une ville absolument fantastique, et dans lequel il y a un creuset de tout ce qui se passe à l'est, au nord, au sud, et qui est pour un sociologue assez fascinant. Voilà.
Pendant que vous nous accompagnez pendant cette conversation en marchant, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont retenu mon attention. Je me suis vraiment posé la question de l'harmonie entre les projets culturels qui émergent de tous ces projets architecturaux et des groupes sociaux qui vivent actuellement autour de cet espace. Il y a tous les, disons, entre guillemets, les cultureux, je suis un peu péjoratif, mais c'est pas ça que je veux dire, mais autour d'une volonté de mettre au cœur de la cité des projets culturels, et puis on est quand même dans un lieu à Marseille et dans ce qui est autour de la friche est quand même un lieu très populaire, très marginalisé socialement. Et je sais que beaucoup de groupes à l'intérieur de la friche font un pont entre ces différents groupes sociaux, cherchent à mener à ce qu'elles soient un peu plus en symbiose les unes avec les autres. Mais je pense que c'est là le point le plus difficile et le point que l'avenir, disons, devra mettre à son programme.
Est-ce que vous avez pu ressentir quand chacun avait ses propres perceptions quand on était sur le toit terrasse?
Oui, c'est vrai que bon, on était dans le noir, mais quand même, il y avait des lumières. Et je trouve que c'est vrai que ce lieu est complètement ouvert. C'est-à-dire, bon, il y a la dynamique des trains qui passent devant nos portes, mais il y a une ouverture assez fantastique. On était sur les hauteurs, sur la terrasse de ce lieu, et je crois que là, on a la possibilité de permettre à chacun de ces groupes sociaux d'exprimer son imaginaire et son espace. Et ça, c'est pas toujours, les lieux ne permettent pas toujours cela. Or là, on sent cet espace sous cette forme-là, hein, d'une certaine façon.
Vous aviez noté encore des choses.
Oui, moi j'étais aussi assez intéressé par le fait que cet aménagement n'est possible que parce qu'il y a une conjonction entre une volonté publique, diverse et multiple, et puis contradictoire. Hein, je connais bien par ailleurs tout le problème de Marseille et de sa société, je dirais, surtout politique. Mais en même temps, on voit qu'un espace comme la friche dépasse tout cela, hein, le subsume complètement et permet des investissements culturels forts, imaginatifs, qui permettent d'aller plus loin, je dirais, que simplement donner du théâtre à tout le monde, donner des biens culturels à tout le monde. Là, c'est plus que cela, c'est l'appel à, je dirais, l'imagination de chacun. Hein, j'ai aussi beaucoup retenu dans tout ce que vous avez dit, surtout les dernières personnes qui ont parlé, de cette volonté de permettre à chacun de fabriquer cette culture, de fabriquer cet imaginaire et de pouvoir être un peu des passeurs d'un côté ou des ferments de l'autre. Je dirais ces deux éléments m'ont paru aussi très très forts.
Merci. On va doucement conclure avec Bernard et Madeleine. On se rapproche d'une fenêtre.
Ah,
ah.
Non. Vous nous dites ce qu'il y a derrière la fenêtre?
Bah, il faut regarder, hein.
Non, parce que ce qu'on peut dire, c'est que derrière la fenêtre, enfin, quand on est à la fenêtre, on est en face du bâtiment qu'on appelle la tour. J'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi on appelait ce bâtiment la tour, parce qu'il ne fait que 6 étages. Mais enfin, sur la friche, c'est le bâtiment le plus haut. Et qu'il y a, je crois, 8 ans à peu près, pour une commande pour Euroméditerranée, on avait installé un écran vertical de 8 mètres de large sur 24 mètres de haut, ce qui fait à peu près 192 mètres carrés ou 196 mètres carrés. Voilà pour les chiffres. Et curieusement, on avait projeté des images sur cet écran pendant 6 mois. Et puis curieusement, il est resté muet pendant toutes ces années. Et que, aussi curieusement, à nouveau, Mathieu Poitevin a choisi précisément l'endroit où était cet écran pour creuser le bâtiment et faire des balcons
Mathieu Poitevin, architecte.
Mathieu Poitevin, architecte. Clotilde doit avoir quelques responsabilités aussi dans l'histoire, j'imagine. Mais je trouve que c'est une très, très bonne idée. Et dans le cadre d'entrer sur le chantier, on s'est dit, ben, peut-être qu'il y a là l'occasion d'utiliser l'écran une dernière fois avant les travaux ou avant le creusement du bâtiment. Nous aussi, on s'est baladé dans le chantier, on a fait quelques images et donc ces images évoquent à leur façon un petit peu le chantier. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est finalement le chantier, c'est un moment où on part du présent. Le chantier et on se projette sur l'avenir. Donc finalement, comme on a un petit laps de temps de 2-3 mois avant que la tour soit creusée, on va voir peut-être si, à partir des images du chantier qui sont projetées actuellement, on va se projeter un peu plus loin, on va voir un peu plus loin et peut-être faire évoluer les images qui sont projetées sur ce mur. Voilà. Alors pour l'instant, les premières images qu'on a filmées font peut-être l'éloge de la chute ou de l'effondrement, parce que c'était un moment où la friche est en démolition. Donc peut-être que les prochaines images parleront du fait d'ériger un peu des murs ou des choses comme ça, ou peut-être qu'on prendra vraiment la liberté, qu'on se projettera beaucoup plus loin dans le temps. Donc l'avenir nous le dira.
Merci. C'est sur cette vision qu'on clôturer ou qu'on ouvre ce Cause Toujours, ce travelling radio autour de la thématique des espaces. Alors merci à nos invités, Clotilde Bérou, Thierry Sissionne, aménagiste, Pierre Vergès, merci à vous et le groupe Dune, Madeleine Chiche et Bernard Misraki. C'était donc Cause Toujours en travelling radio pour cette conversation sur les espaces. Merci à nos invités, merci au public présent qui sont en train de boire un coup derrière nous et aux toutes les équipes d'organisation et de conception, Système Friche Théâtre, la SIC Friche Label de Mai, Grenouille Euphonia, Les Grandes Tables, le groupe Dune et Christophe Modica qui nous a rejoint un peu au dernier moment, cette fois-ci équipé de son appareil photographique, aujourd'hui pour cette occasion. Au revoir, merci à tous et à bientôt.